Appel d'air, Céline, sur Radio Grand Ciel. L'émission Appel d'air porte bien son nom aujourd'hui puisque nous allons prendre de l'altitude avec une édition consacrée au monde de l'aviation. Et on décolle tout de suite avec une chanson que vous connaissez sûrement. Il s'agit du titre Lindbergh, interprété par Robert Charlebois et Louise Forestier.
Whisper, jet, clipper, jet, turbo. À propos, je suis pas rendu chez Sophie qui a pris l'avion Saint-Esprit de Duplessis sans m'avertir. Alors je suis reparti sur Québec Air, Transworld, Northern, Eastern, Western, puis Pan American. Je sais plus où je suis rendu. J'ai été au sud du sud, au soleil, le blanc rouge, les palmiers et les cocotiers glacés. Dans les peaux, aux esquimaux bronzés qui tricotent des ceintures fléchées farcies. Et toujours la Sophie venait de partir sur Québec Air, Transworld, Northern, Eastern, Western, puis Pan American. Mais je sais plus où je suis rendu. Y'avait même une compagnie qui engageait qui volaient en dedans et qui faisaient du ballon pour la tenir dans le vent. C'était absolument, absolument, absolument très salissant. Alors je suis reparti sur Québec Air, Transworld, Northern, Eastern, Western, puis Pan American. Mais je sais plus, je sais plus. Sophie à moi, a pris une compagnie qui volait sur des tapis sur qui c'est plus parti. Et moi, je suis rendu à dos du chameau. Je préfère Québec Air, Transworld, Northern, Eastern, Western, puis Pan American. Mais j'ai pu, je ne sais plus où je suis, où je suis rendu. Puis j'ai fait une chute, une crise de chute en parachute, et j'ai retrouvé ma Sophie. Elle était dans mon lit avec mon meilleur ami, et surtout mon pot de biscuits, allez là, que j'avais ramassé. Sur Québec Air, Transworld, Northern, Eastern, Western, puis Pan American.
La fille de l'air est un roman de Fiona Kinman qui retrace la vie captivante de l'aviatrice Jean Batten, née en Nouvelle-Zélande en 1909 et qui, à l'âge de 25 ans, bat le record de traverser Angleterre-Australie en solitaire. L'aviation, c'est une passion qui lui vient de sa mère, qui était fascinée par l'exploit de Louis Blériot, qui a réussi à traverser la Manche l'année où Jean est née. La petite Jean grandit avec deux frères et ses parents qui se séparent le jour où sa mère comprend que certaines patientes s'assoient sur le fauteuil de dentiste de son mari pour autre chose que des soins dentaires. Lors d'un séjour en Australie, à l'âge de 19 ans, Jean fait son baptême de l'air avec un pilote australien. Elle est déterminée, elle apprendra à piloter. Pour le père, il en est hors de question. Même si certaines femmes commencent à se faire connaître comme aviatrices, comme l'anglaise Amy Johnson, il considère que Jean a surtout des talents de danseuse et de pianiste, il l'imagine plutôt concertiste. Et c'est ce prétexte que Jean et sa mère vont utiliser pour convaincre le père de les laisser partir pour l'Angleterre. L'idée avancée est que là-bas, elle recevra les meilleurs cours. En réalité, elles sont à peine arrivées que Jean s'inscrit pour ses premiers cours de pilotage à l'aérodrome de Stag Lane à Londres. Elle suivra aussi des cours de mécanique et se fera remarquer dans ce milieu essentiellement masculin. Justement, les hommes, parlons-en, ses relations avec eux vont se révéler assez ambiguës. Elle va avoir au moins deux prétendants successifs, des pilotes eux aussi, qui ont plus d'argent qu'elle. Ils la courtisent, ils sont prêts à l'aider financièrement pour finir de payer ses leçons, ou bien pour financer un avion, mais ils comptent surtout lui mettre la bague au doigt et ils attendent bien qu'elle se tienne sage une fois mariée. Jean, bien sûr, ne l'entend pas de cette oreille, elle est déterminée à effectuer la traversée entre l'Angleterre et l'Australie en solitaire. En 1934, elle réussit enfin, après deux tentatives, à battre de 4 jours le record de l'anglaise Amy Johnson à bord de son biplan, un Gypsy Moss. Elle remportera d'autres records dans les années qui suivent, puisque dès l'année suivante, elle fait le trajet inverse. En 1935, elle va aussi en solitaire jusqu'au Brésil. Elle sera surtout la première à effectuer la traversée entre l'Angleterre et la Nouvelle-Zélande, en solitaire, toujours, aux commandes de son Percival Gull. À chaque fois, c'est une popularité exceptionnelle qui lui tombe dessus, un phénomène étourdissant, elle est acclamée par des centaines de personnes dans chaque ville qui la reçoit, et l'auteur retranscrit très bien toute cette folie qui règne autour d'elle, au point que parfois, elle aura besoin de s'isoler pendant plusieurs mois. Fiona Kinman relate aussi les autres aspects de la vie de cette femme qui était surnommée la Garbo des airs. Elle évoque son grand amour, un aviateur, lui aussi. Elle évoque aussi ses relations avec sa mère, qui a toujours été à ses côtés, qui était sa plus fidèle alliée, son meilleur soutien. Jean Batten, après la Seconde Guerre mondiale, recherchera l'anonymat. Elle a vécu à la Jamaïque et elle mourra seule à Majorque en 1982. La fille de l'air, c'est une biographie bien sûr romancée, mais passionnante. Écrite dans un style fluide, l'auteur réussit même à nous faire croire parfois qu'on est dans le cockpit avec elle, on sentirait presque le vent, le froid et les odeurs du moteur. Fiona Kinman est originaire de la même ville que Jean Batten, Rotorua. L'autre point commun entre les deux, et qui fait beaucoup sourire l'écrivain, c'est qu'elles ont reçu la Légion d'honneur en France. Fiona Kinman voulait rendre hommage à l'aviatrice avec ce roman, le pari est réussi. En tout cas, elle nous donne envie d'en savoir plus, d'aller chercher des photos de l'aviatrice. Et sur Internet, vous trouverez très facilement des vidéos, vous pourrez ainsi l'entendre s'exprimer, notamment lors d'un reportage qui relatait son arrivée en 1937 en Angleterre, après être partie de Sydney 5 jours plus tôt. Elle explique, avec beaucoup d'humour, aux journalistes qu'elle sait que beaucoup l'attendaient depuis le petit matin, qu'elle aurait aimé arriver plus tôt, mais qu'après tout, le privilège des femmes, c'est de se faire attendre.
Smell the daisies. you, take you higher.
Dans un avion de ligne avec la chanson Big Jet Plane de Angus et Julia Stone. La bande dessinée que je vais vous présenter maintenant s'intitule Nage et Serre. Ses auteurs sont Fred Bernard et Hassen. Et comme son titre l'indique, cette bande dessinée retrace la vie trépidante de l'aviateur Charles Nungesser, un as de la Première Guerre mondiale. Le scénariste Fred Bernard a choisi comme narratrice la maîtresse de l'aviateur, qu'il appelle Emily. En vérité, on sait peu de choses de cette femme qui était mariée, si ce n'est qu'un ami de Nungesser l'a surnommée son deuxième amour après son avion Nieuport. Charles-Eugène Jules-Marie Nungesser est né en 1892 dans une famille parisienne bourgeoise. C'était un enfant choyé, un adolescent très curieux, prêt pour l'aventure, qui apprend très tôt la mécanique, qui conduit des voitures dès l'âge de 15 ans. Et justement, à l'âge de 15 ans, il part seul pour le Brésil, avec l'accord de ses parents, pour y retrouver un oncle. Qui en fait n'est pas là. Mais il ne se décourage pas, il va faire plein de petits boulots, il va partir à la recherche de cet oncle qui est censé être en Argentine. Il y deviendra pilote de course, cow-boy, et il volera pour la première fois sur un avion Blériot. En 1914, à l'âge de 22 ans, il rentre en France pour s'engager. Il va d'abord faire partie des hussards, et puis après un coup d'éclat, et surtout après avoir fait preuve de beaucoup de culot, il obtient son affectation dans une escadrille aérienne. En 1915, il obtient son brevet militaire sur un avion Farman. Il rencontrera son mécanicien, Roger Pochon, qui va devenir son ami, et avec lequel il va voler sur un bombardier voisin. Ils effectueront plusieurs missions périlleuses ensemble au-dessus de la Belgique. Et le pilote va se faire remarquer en abattant un avion ennemi, ce qui lui vaut une médaille et les premiers honneurs de la presse. Nungesser entend bien devenir pilote de chasse. Et lorsqu'il obtient son premier avion, un Nieuport 17, il fait peindre dessus un blason qui contribuera à le faire entrer dans la légende. Un cœur noir, avec à l'intérieur une tête de mort, des os et un cercueil. Le but est de se faire remarquer, mais aussi de conjurer la mort. Les victoires s'enchaînent, il rejoint les as tant glorifiés par les journalistes, et se taille une solide réputation de héros, de casse-cou, mais aussi de séducteur et de noceur. Dans cette bande dessinée, la voix d'Emily nous le présente ainsi, mais également comme un homme opiniâtre, bosseur, un homme passionné et un amoureux. Lors de l'essai d'un nouvel avion en 1916, c'est l'accident. Il frôle la mort, il a les deux jambes brisées, la mâchoire fracturée. Il va subir une très lourde opération, ce qui lui vaut d'être réformé par l'armée. Mais arrêter de voler lui est inconcevable. Alors qu'il vient tout juste de commencer à marcher avec des béquilles, il décide de remonter dans son avion. Même s'il a besoin d'aide maintenant pour monter et en descendre de son avion, il reprend les combats et enchaîne les victoires. Il se rapproche ainsi du palmarès de celui qui est devenu entre-temps le roi de l'air, Georges Guynemer. S'il enchaîne les victoires, Nungesser enchaîne aussi les accidents. À nouveau, des fractures, des opérations très lourdes. Sans anesthésie, il n'y tient pas, il est même plutôt du genre à donner conseil aux chirurgiens qui le soignent. En tout cas, la célébrité ne le quitte plus. Lorsque l'armistice est signé en novembre 1918, comme tout le monde, il la célèbre sans retenue. Mais une fois l'euphorie passée, il finit par s'ennuyer. Il deviendra directeur d'une école de pilotage à Orly, qui fera rapidement faillite. Il participera à des meetings aériens où il reproduira ses combats. Sa réputation de héros s'efface peu à peu et il commence à essuyer quelques critiques. Il partira aux États-Unis où il jouera dans un film muet, The Sky Raider, qui malheureusement a disparu. Mais il a un projet qui lui trotte dans la tête, réussir la traversée de l'Atlantique. Il choisit pour cela un copilote, François Colli, un Corse qui a déjà participé à d'autres expéditions périlleuses, notamment la traversée de la Méditerranée. Les deux hommes vont étudier toutes les modifications techniques à apporter à leur avion, un biplan Levasseur, un avion tout blanc et du coup surnommé l'oiseau blanc, sur lequel Nungesser fait peindre son blason. Le 8 mai 1927, les conditions météorologiques sont enfin bonnes, ils décollent du Bourget. Ils seront vus pour la dernière fois à Étretat, mais ils n'arriveront jamais. Aujourd'hui encore, le mystère demeure entier. Les auteurs de cette bande dessinée réussissent à redonner vie à un personnage hors norme, audacieux, un homme culotté, un homme passionné, et tout ça grâce à la voix de la narratrice, Émilie, qui en fait un personnage attachant, mais aussi grâce au dessin en noir et blanc de Hassen. Un dessin parfois très minutieux pour les décors, qui fait penser à des images ou des cartes postales de l'époque. Et d'ailleurs, le dessinateur avoue s'être beaucoup inspiré de la mise en page des journaux d'époque. Si vous voulez en savoir plus sur l'aviateur, vous avez à la fin de l'album une bibliographie très détaillée. Nungesser est un album publié aux éditions Casterman. Si l'oiseau blanc est devenu un avion de légende dans l'histoire de l'aviation, il y a eu d'autres avions qui ont marqué tragiquement les mémoires, et c'est le cas de l'avion américain Enola Gay, un B-29 Super Fortress qui est tristement célèbre pour avoir largué la bombe atomique sur Hiroshima le 6 août 1945. En 1980, le groupe anglais Orchestral Manoeuvres in the Dark, plus connu sous le nom de OMD, a consacré une chanson à cet avion, et je vous propose d'écouter une reprise de ce titre par le groupe suisse Hillbilly Moon Explosion.
Oh,
siècle des nuages de Philippe Forest est un roman dense de plus de 550 pages, mais un roman passionnant. Un formidable hommage que l'auteur rend à son père, né en 1921 et mort en 1998. Un homme du XXe siècle, un homme lié à cette grande épopée du siècle qu'est l'aviation, puisqu'il était pilote. Philippe Forest retrace la vie de ce jeune homme qui était fasciné par les hydravions qui se posaient dans sa ville, Mâcon. Il a obtenu son brevet de pilote en 1939, juste avant que la guerre ne commence, mais il n'a pas pu s'engager car il était mineur. La fermeture de l'école de pilote pendant l'occupation le conduira à repousser son rêve et il partira en 1942 pour Casablanca afin d'intégrer une école d'agronomie. Après le débarquement allié en Afrique du Nord, il part pour les États-Unis avec d'autres jeunes Français pour y recevoir une formation de pilote au sein de l'Army Air Force. C'est un pilote tellement doué qu'il sera gardé pour être instructeur et finalement il n'aura pas l'occasion de combattre, même s'il a appris à voler sur un chasseur P-47. Il est à peine revenu en France en 1946 qu'il rejoint la compagnie Air France, alors en pleine reconstruction, compagnie qu'il ne quittera pas jusqu'à sa retraite en 1981. Il comptera plus de 22 000 heures de vol comme pilote de ligne, il a commencé sa carrière sur un DC-3 et l'a fini sur un Boeing 747. Si ce livre est consacré à son père, l'auteur évoque aussi forcément sa mère, et notamment l'histoire de leur couple. Tous les deux sont originaires de la même ville, mais ne se seraient a priori jamais côtoyés s'il n'y avait pas eu l'exode. « Ce fut comme une apparition », c'est cette phrase qui a nourri l'histoire familiale, cette phrase que son père employait toujours pour raconter leur rencontre en juin 1940. L'amour du jeune couple a été mis à l'épreuve pendant le conflit par 3 ans de séparation. Philippe Forest évoque également ses grands-parents maternels et paternels, et avec eux, il fait revivre toute une page de l'histoire de France et surtout celle de la Seconde Guerre mondiale. Tout au long du roman, il retrace aussi en parallèle l'histoire de l'aviation. Pour lui, l'histoire de l'aviation et celle du XXe siècle sont une seule et même histoire. Surtout, ils ont en commun ce qu'il appelle le grand sentiment dominant du XXe, l'optimisme. Les rêves de liberté, de pacification entre les peuples ont été portés par l'aviation, sont des rêves qui ont marqué le siècle, et pourtant, paradoxalement, l'aviation et le XXe siècle ont aussi connu des phénomènes de violence et de destruction massive sans précédent. Dès la Première Guerre mondiale, les avions ont été très vite utilisés comme des armes, ils ont évolué très rapidement d'ailleurs en seulement 4 ans de conflit, et bien sûr tout ça a été poussé à son paroxysme lors du conflit suivant, avec les bombardiers qui ont semé la mort un peu partout en Europe, jusqu'au Japon, le 6 août 1945 à Hiroshima. Malgré tout, comme l'auteur l'écrit, l'aviation est le nom, l'un des noms qu'a porté cette grande confiance dans l'avenir née avec le siècle. L'aviation a connu une évolution tellement rapide, il y a si peu de temps finalement, entre les premiers exploits du début du siècle avec les premiers vols des frères Wright en 1903, et puis les vols de l'aéropostale dans les années 30, et enfin l'aviation moderne qui sillonne le monde entier et qui est devenue tellement normale pour nous qu'on ne s'émerveille plus de voir voler un avion aujourd'hui. Dans ce livre, Philippe Forest se livre parfois à des réflexions sur le temps, sur le passé, l'histoire. Il a une particularité aussi, c'est qu'il utilise beaucoup le participe présent, il fait parfois des phrases très longues qui peuvent durer tout un paragraphe, mais Le siècle des nuages est un livre captivant. Pas vraiment une biographie, plutôt un roman, parce qu'il considère que raconter la vie de quelqu'un, c'est forcément faire une œuvre de fiction. Il s'agit d'assembler des anecdotes, de faire le lien entre elles, de combler les vides, les souvenirs manquants aussi. Et d'ailleurs, son père était un homme humble et discret, qui ne s'attardait pas sur le passé. Philippe Forest rend à son père un hommage poignant avec Le siècle des nuages, titre qu'il emprunte à Apollinaire, cité au tout début du livre. Mais chaque spectateur cherchait en soi l'enfant miraculeux, siècle au siècle des nuages. Les avions peuvent faire rêver, même quand ils ne volent pas. Dans la chanson que nous allons écouter maintenant pour terminer l'émission, Cathy Melua raconte qu'elle aimait jouer avec son frère, lorsqu'ils étaient enfants, dans la carcasse d'un avion sur un aérodrome désaffecté pas très loin de leur village. Le titre s'intitule « Plain Song ». Merci d'avoir écouté cette émission consacrée à l'aviation. J'en profite pour embrasser bien fort un membre de l'aéroclub de Chartres qui se reconnaîtra. À bientôt pour une nouvelle émission.
streets were all dusty. The side doors were open. Those aeroplanes were left there years ago. Granddad had spoken. Forests in Russia. I pictured him walking in 10 inches of snow. We lied pretending those planes could fly, that nothing was out of reach in the whole of the sky. It was just pretending. Simple to do. We'd make some plans and travel someplace new. Paris and London, those cities and movies. Perfect lives were lived, if they could be believed. Back in the real world, they seemed so distant. But none of it mattered in the aeroplane field. We lied pretending those planes did fly. Rusty old wings knew the entire sky. It was just pretending there was nothing more. Hey, why the sad face? Can't you feel this cabin sore?